Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour cette table ronde qui a pour thème les liens du sang. Donc, je suis ravie de vous accueillir tous les trois. Donc Carole Fives pour Le Jour et l'Heure aux éditions Jean-Claude Lattès, Eric Fotorino pour Mon enfant, ma sœur aux éditions Gallimard et Grégoire Kaufmann pour L'Enlèvement aux éditions Flammarion. Bienvenue et merci d'être là. Si vous me le permettez, je vais peut-être vous présenter en quelques lignes et puis on ira dans le détail de chacune de vos œuvres. Alors Carole, je me permets de commencer par vous. Vous êtes auteur et peintre de ce que j'ai vu. Vous avez aussi publié plusieurs romans. Alors il y a de la littérature générale, de la littérature jeunesse, j'ai appris. Alors en littérature générale, on peut par exemple citer Quelque chose à te dire ou encore Tenir jusqu'à l'aube. Et donc nous vous recevons pour vraiment pour le bouleversant Le Jour et l'Heure, qui part de la fin de vie à travers le regard de presque chaque membre d'une même famille. On y reviendra. Eric Fotorino, vous êtes auteur de plusieurs romans et après plusieurs années à la tête de la direction du journal Le Monde, vous avez fondé le 1 Hebdo, un hebdomadaire qui traite de la question de l'actualité à travers différents regards. Vous avez écrit une saga familiale pratiquement, mais un roman familial où vous avez écrit sur votre papa biologique, sur votre père adoptif, sur votre mère. Et là, on va parler de votre sœur, dont vous n'avez appris l'existence que très tard. Et le chemin pour peut-être la retrouver ou pas. On verra ça ensemble. Et Grégoire Kaufmann, alors vous êtes historien et écrivain, auteur de plusieurs livres, dont L'Hôtel de Bretagne. Et si je cite celui-là, c'est parce que justement, comme là vous parlez de votre père, je voulais voir si vous aviez déjà abordé le thème de parler d'un membre de votre famille. Et là, vous parlez dans L'Hôtel de Bretagne d'un moment de la vie de votre grand-père. Ici, dans ce livre, nous sommes en mai 85 et votre père, donc Jean-Paul Kaufmann, journaliste à l'événement du jeudi, est enlevé. Quand il part au Liban. C'est un moment de l'histoire où le Proche-Orient est en ébullition et vous expliquez très bien, c'est très documenté ce qui se passe là-bas. Donc toute une machine va se mettre en marche, le combat de votre mère pour le libérer, les dessous des arcanes politiques. Il y passera 3 ans avant d'être libéré. Alors, j'évite en général de poser la question du pourquoi vous avez écrit ce roman, parce que parfois elle peut appeler à la banalité, mais je trouve que dans votre cas, vu la densité de l'émotion de chacun de vos romans, Pourquoi vous avez écrit ces livres et comment, surtout, vu la distance qui peut être ou pas opérée vis-à-vis de l'écriture de ces sujets en particulier. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Allez.
Vous avez le temps de réfléchir comme ça, c'est bien. Je me jette à l'eau. Bon, bonjour et ravie d'être ici. Et moi, pourquoi ? Parce que j'ai tout simplement une amie qui a eu cette démarche il y a 7 ans. Elle avait une maladie donc dégénérative et elle a voulu mettre fin à sa vie parce qu'elle ne voulait pas vivre la dernière partie de l'agonie de sa maladie. Et donc, je l'ai revue. C'est une amie que je voyais à peu près tous les 6 mois à Lyon, qui on prenait un café tout simplement. Elle m'annonce que la semaine prochaine, elle ne sera plus là parce que lundi matin, elle part en Suisse en week-end se faire euthanasier, entourée de toute sa famille, ses enfants, donc une famille de médecins, avec 4 enfants, tous adultes, dont les filles étaient aussi des amies. Et que lundi, elle ne sera plus là, puis elle me dit ça en riant, enfin voilà, de façon assez légère. Et moi, j'ai passé évidemment le week-end suivant complètement. Pendant plusieurs années, j'ai cherché à interviewer ses filles, je connaissais bien son mari qui était médecin généraliste, enfin, c'est une famille vraiment dont j'étais très proche, et de comprendre ce qui s'était passé ce week-end-là et comment on décide à un moment donné de choisir le jour et l'heure de sa mort. On n'entend jamais Edith, donc la principale, on entend vraiment les enfants parler de ce qui reste et de ce que c'est que de connaître le jour et la mort d'un proche et de l'accompagner dans un dernier week-end comme ça, qui est aussi un week-end qui célèbre finalement la vie, la conscience, enfin la liberté de choisir. Et c'est vrai que moi, c'était pourquoi c'est l'urgence de la convention citoyenne qui a eu lieu au printemps et qui m'a vraiment interrogée sur ces voix que j'avais entendues à travers ces voix amies. Je pense qu'elles sont très importantes. Elles apportent de la nuance, de la réflexion, des points de vue des médecins qui sont aussi les plus résistants aujourd'hui dans ces lois proposition de loi sur la fin de vie, les médecins très très résistants. Donc c'est aussi une famille de médecins avec les différentes spécialités médicales qui sont représentées dans la famille, donc ça me paraissait être assez nuancé, être assez intéressant. Donc bah, pourquoi ? Parce que ça me semblait important que ces voix existent, et c'est bon, un texte que engagé, je pense, aussi, enfin voilà, même si il reste ouvert, voilà, pour répondre aussi à une actualité, parfois il y a des textes aussi qui ont cette urgence-là, voilà.
Je pensais que c'était de la fiction, justement, mais en fait, vous êtes vraiment inspiré de quelque chose de réel. D'accord, ok. Eric Fotorino, vous avez peut-être le sentiment de boucler une boucle avec, en écrivant sur votre sœur.
Alors, oui, bonsoir à vous toutes, à vous tous aussi. On ne sait jamais si on a fini, en réalité. Mais probablement que j'avais envie de... d'y voir encore plus clair dans une dimension qui m'avait complètement échappé. C'est-à-dire que mes livres depuis 30 ans, ces livres-là se tiennent par la main, comme vous l'avez dit, un père adoptif, un père biologique, une mère qui n'est pas exactement une mère, mais qui essaye de l'être. Et puis cette petite sœur qui lui a été prise, pour ne pas dire oui, arrachée, volée, dès la naissance, un jour de janvier 63. Et je pense que ça m'a paru tellement irréel que, comme toujours, j'ai foi dans la fiction, j'ai foi dans les mots, pour aller essayer de recréer une réalité quand elle vous paraît aussi incroyable, aussi éloignée, et qu'elle n'est faite d'abord tissée que de silence, que d'absence. Je dis souvent que mes livres sont traduits du silence, parce que c'est vrai qu'il y a eu tellement de choses qui étaient impalpables, incommensurable, enfin il n'y avait pas moyen de prendre la mesure de ce qui s'était passé, et à partir de là je pense que j'ai écrit pour qu'il y ait moins de questions. Je ne dis pas pour apporter des réponses, parce que les réponses sont toujours fragiles, mais en tout cas qu'il y ait moins de points d'interrogation dans cette histoire. Et le fait que tout ça s'était passé il y a 60 ans, le réel ne peut plus grand chose a priori. C'est-à-dire, c'est comme la réplique d'un tremblement de terre qui arriverait tellement loin après que vous avez oublié presque l'origine. Voilà. Et donc, comme je pense toujours dans ces textes que j'écris depuis Korsakov, depuis L'homme qui m'aimait tout bas ou 17 ans, etc., c'est espérer que par la fiction va se créer quelque chose d'un peu magique ou d'un peu inattendu, qui va être de l'ordre du réel, c'est-à-dire faire réapparaître quelque chose d'une existence alors qu'elle a été évaporée.
Alors pardonnez-moi, mais vous parlez de fiction, or il me semble, après c'est des projections de lecture, mais tout ce que vous racontez, et qu'on peut dire que c'est du réel, même si vous imaginez la vie qu'a eue votre sœur, c'est votre réalité à vous. Enfin, c'est peut-être un autre débat, mais...
Non, c'est-à-dire qu'en fait c'est un socle réel. En effet, cette petite fille est née de ma mère il y a 60 ans. En revanche, je ne sais rien de ce qui a pu se passer. Et donc c'est là que commence justement cette espèce de couture de broderie, d'une certaine manière, c'est-à-dire comment, avec les mots, on coud ou on répare. Je pense que c'est une sorte de livre de réparation, autant que c'est possible, d'un réel qui a été justement déchirant.
Grégoire, vous, ça commence par un collègue archiviste qui vient d'éterrer dans la cave plein d'archives de l'époque de l'enlèvement de votre père. C'est à ce moment-là qu'est né le besoin, peut-être, d'écrire son histoire, enfin cette période-là en tout cas.
Ah oui. Non, mais c'est bon. Ah bah, il y en a là, je le rends. Alors moi, je pensais pas du tout m'intéresser un jour à cette histoire. J'ai été historien de formation. Lorsque j'ai fait ma thèse d'histoire, on m'avait appris à ne jamais utiliser le pronom personnel. L'idée, c'était de viser à l'objectivité la plus totale, même si on sait qu'on n'atteint jamais l'objectivité, mais qu'il fallait ne pas se mettre en scène et disparaître derrière son sujet, en quelque sorte. Quand moi, j'ai appris l'histoire, quand je faisais ma thèse à Sciences Po, c'était comme ça. J'avais travaillé sur l'histoire de l'extrême droite auparavant, et c'était pas du tout mon champ de recherche, et je pensais pas avoir écrit sur cette... tragédie familiale. Et 30 ans après la libération de mon père, donc en 2018, je suis en effet, comme vous l'avez rappelé, tombé sur ce coffre qui était remisé au fond d'une resserre dans la maison familiale de mes parents dans les Landes. Et dans ce coffre, il y avait toutes les archives du comité de soutien des amis de Jean-Paul Kaufmann qui avait été fondé par ma mère immédiatement après l'annonce de leur enlèvement. Et ce qui est paradoxal également, c'est que je suis un fou d'archives. J'ai passé toute une partie de ma vie dans les archives quand je travaillais sur mes sujets de recherche auparavant. Et je savais qu'il y avait des archives dans ce coffre. Et j'avais jamais eu l'idée d'ouvrir ce coffre pour les regarder. Et 30 ans après, j'ai ouvert ce coffre. Et là, tout d'un coup, il y a tout ce passé m'a sauté à la figure. Toute cette époque de ma préadolescence percutée par la tragédie. Et j'ai au début ouvert ce coffre pour savoir ce qu'on pouvait faire de ces archives, éventuellement une donation aux archives nationales, d'où la présence de mon ami archiviste Yann Potin sur place. Mais au fur et à mesure de la journée, lorsque on regardait ce qu'il y avait dans ce fonds archivistique, j'en ai découvert la richesse, parce qu'il y avait d'incroyables pépites. Il y avait des milliers et des milliers de lettres envoyées de toute la France, qui étaient comme une coupe sombre sur les imaginaires et les sensibilités de l'époque. Il y avait également des lettres de personnalité. Hein, ça pouvait aller de Jacques Toubon à Georges Marchais, en passant par Françoise Dolto ou Yves Montand. Donc il y avait aussi ces lettres-là, des coupures de presse, des préparatifs de manifs. Et très vite, moi, l'historien, j'ai eu envie d'en faire quelque chose en historien. Mais le pari a été également de mettre en scène aussi mes souvenirs et de les confronter aux archives et voir s'ils correspondaient. Et parfois, il y avait un contraste entre les deux. Et c'était aussi cette difficulté à penser les archives à travers les jeux de la mémoire aussi qui m'a intéressé dans cette démarche-là. Et donc, je me suis mis au travail. Donc, j'ai dû lever aussi l'hostilité d'une partie de ma famille, notamment de ma mère et de mon frère, qui n'étaient pas du tout partants pour que j'exhume cette période douloureuse. Et j'ai donc commencé à travailler et sur cette histoire, et sur les années 80, et sur moi, qui étais-je, moi, fils d'otage, entre 11 et 14 ans. Et ça a été un peu voilà, cette ambition au départ, c'était celle-ci.
Alors, j'en profite pour vous questionner sur... quand on s'attaque à des sujets aussi émotionnellement denses, vu que chacun vous touche, soit personnellement, soit de façon extrêmement proche... est-ce qu'on arrive, et comment on arrive dans ce cas-là, à trouver la bonne distance pour écrire sur les liens du sang, surtout lorsqu'ils sont douloureux? Alors, vous avez 4 heures, mais... Peut-être qu'on n'arrive pas, d'ailleurs, à trouver cette distance-là, mais...
Alors, pardon, Salma, la question, en gros,
la question, c'est est-ce qu'on trouve une distance, est-ce qu'on, ah oui, pour se protéger, est-ce qu'on arrive à se trouver une distance, oui, pour écrire le douloureux?
Alors, pour ce qui me concerne, parce que je pense que c'est quelque chose qui est personnel à chacun, propre à chacun, mais pour ce qui me concerne, je crois que j'ai toujours eu cette même, j'allais dire presque hygiène mentale, de toujours recourir à la fiction. C'est-à-dire que vous savez, dès qu'on dit jeu, c'est déjà une fiction, en réalité. Et à partir de là, je pense que ce n'est pas tant pour se cacher ou pour se dissimuler derrière un récit. Non, c'est simplement parce que la fiction, elle vous laisse respirer. Vous pouvez inventer une scène. Qu'est-ce que c'est un roman? C'est des scènes. Ce n'est pas une théorie, c'est pas démontrer quelque chose. Donc, à partir de là... Ben une scène, ça peut être un détail, ça peut être justement un bout d'étoffe, ça peut être un mot qui est passé par là, ça peut être un objet. Donc, et moi, je me raccroche beaucoup à ça pour essayer justement de faire vivre, de faire revivre quelque chose qui a pu être très, très intime. Mais parce qu'à partir de là, vous pouvez le partager. Moi, ce qui me fait toujours hésiter, c'est lorsque une histoire que je pourrais commencer... ne serait que pour moi. Même si je pense rarement au lecteur quand j'écris. Mais malgré tout, il y a peut-être cette espèce d'impensé, mais permanent, de se dire, ce que je vais écrire, c'est quelque chose qu'un jour, je vais pouvoir partager avec des lecteurs pour justement qu'on puisse se dire, on n'a pas la même histoire, mais des choses qui ont résonné, au sens de produire un écho, puissent comme ça, par ricochet, venir et je vois, et je le vois encore à Brive depuis hier, ces personnes qui viennent en me disant cette histoire, j'ai un peu la même, alors que si vous écoutez la personne, vous vous rendez compte que c'est pas du tout la même, mais oui. Il n'empêche, ce qui est important, c'est que la perception que peut, et là, ça, il n'y a que la fiction pour pouvoir faire ça. Donc voilà, c'est une forme de mise à distance, parce que précisément ça vous envahit tellement que ça peut devenir presque gênant d'être à ce point envahi par une question comme, par exemple, qui es-tu ? Qui es-tu, toi, cette sœur que je n'ai pas connue ?
Carole ?
Excuse-moi, Eric, mais j'ai lu ton livre et je pense que la versification met aussi beaucoup de distance. Non ?
Alors, oui.
Le livre est en prose, et d'ailleurs, c'est assez étonnant au départ parce qu'on ne s'y attend pas. Enfin, moi, je n'ai pas lu, je lis rarement les quatrièmes de couverture pour me laisser toute la surprise.
Parce qu'elles sont faites par les éditeurs, les quatrièmes de couverture. Donc c'est vrai que je préfère lire la première page, on a vraiment la voix de l'auteur, je trouve que c'est plus intéressant.
Et donc on découvre la prose, et je crois que c'est peut-être une première fois que vous écrivez en prose.
Oui, alors évidemment, la réflexion de Carole est très juste. En réalité, je ne savais pas écrire ce livre. Lorsque j'ai appris l'existence de cette petite fille, qui forcément, dans mon imaginaire, était une petite fille, mais 60 ans après, qu'est-ce que vous pouvez imaginer d'une petite fille ? Vous imaginez une femme d'aujourd'hui, donc avec son âge. Et donc, je n'ai pas su écrire ce livre autrement que sous une forme d'un... Moi, je n'ai jamais écrit de poésie. J'aime beaucoup la poésie, j'en lis. Mais je n'ai jamais, je me suis jamais imaginé écrivant de la poésie. Et donc, ça veut dire que cette forme m'a choisi d'une certaine manière, puisque moi, je l'ai décidé. Je ne suis pas levé un matin en disant, tiens, je n'ai jamais écrit de poèmes. Non, pas du tout. C'est la première fois, d'ailleurs, depuis 20 ans, que j'écris un livre, ce qui va devenir un livre, à la main. Depuis très longtemps, comme beaucoup d'écrivains, j'écris sur mon ordinateur. Et puis, il y a des allers-retours entre le papier, la main qui se faufile entre les lignes, etc. Puis, on réimprime. Là, j'ai tout écrit à la main. Donc au rythme de quoi ? Du cœur, du souffle, de la main, etc. C'est quelque chose de très artisanal, de très fragile. Et donc effectivement, cette forme poétique, je pense que si j'y réfléchis a posteriori, c'est de me dire probablement que j'étais incapable de bâtir tout l'échafaudage narratif que représente un roman, comme tu sais, Carole. Pour garder l'émotion, pour garder qu'est-ce que j'ai ressenti de ce vide, de cette absence. Et il y a quelque temps, une consoeur journaliste qui m'interrogeait sur ce livre l'avait ouvert devant elle et elle m'a dit, mais en fait, le blanc des pages, c'est l'absence. Moi, je n'avais même pas pensé à ça, mais elle a raison. Et c'est drôle parce que c'est la première fois que le service de fabrication de Gallimard m'a vu tant de fois. D'habitude, je donne mon texte et puis je m'occupe plus. Enfin, je lis les épreuves comme tout le monde. Mais là, je voulais voir l'objet. Je voulais voir à quoi ça allait ressembler. Et en effet, ce blanc, il y a du blanc dans les pages. Ben, cette absente est devenue mon absente.
C'est beau. Carole, alors, je ne sais pas si vous, la question de la distance s'est posée. Peut-être, oui, par rapport aux proches de votre amie.
Oui, la question de la distance, moi, c'est que je n'ai pas fait parler Odile, je n'ai pas fait parler la personne qui a décidé de mourir et qui part mourir. Dans la voiture, on entend, et pendant le week-end, on entend que ses enfants et son mari. C'est une façon, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de textes qui sont parus récemment, qui donnaient la voix comme ça, ou Anne Baird, par exemple, qui parle, qui raconte leur décision, leur engagement pour la mort volontaire. Et là, c'était aussi l'idée de parler de ceux qui restent. C'est des nouvelles façons de mourir quand même aujourd'hui. Enfin, en France, c'est toujours pas effectivement légalisé, mais pour ces familles qui vont en Belgique ou en Suisse, par exemple, faire ça, c'est comme des nouveaux rituels. Et ça me paraissait intéressant de voir comment les familles vivent ça. Comment les premiers, il y a 40 ans, c'était les premiers enfants du divorce, et là, c'est les premiers enfants de l'euthanasie, en fait. Comment, en tant qu'enfant, on accompagne ses parents dans cette démarche, ce que ça fait aux enfants, ce que ça fait aux maris. Voilà. C'était aussi la parole de ceux qui entourent. Du coup, c'est la distance qui est déjà la distance. C'est pas moi qui vais mourir. Donc, on est déjà dans une parole qui est autour. Donc, c'était ça, ma distance.
Et vous dites aussi que ce que, en fait, l'anecdote où vous racontiez que votre ami vous a annoncé ça de façon légère et joyeuse, vous le reprenez aussi. À aucun moment, on sent qu'il... Enfin, si, pour les enfants, bien évidemment, pour le mari qui se pose des questions, mais on sent une envie de célébrer, vraiment, une célébration. Et c'est un peu le message aussi de ce livre-là, c'est que ça peut être aussi une décision prise en toute... Elle avait peur aussi de rater le moment où elle était encore en pleine possession de ses moyens pour pouvoir...
Oui, c'est ça.
Appuyer sur le...
Oui, c'est vrai que quand on va faire cette démarche en Suisse, il faut être dans un bon timing, un bon créneau. C'est pour ça que le titre, le jour et l'heure, c'est très particulier parce qu'il faut à la fois être capable d'avoir encore les membres qui fonctionnent. Alors, or, la maladie qu'elle a, qui correspond à beaucoup de maladies dégénératives, hein, de Charcot-Parkinson qui pousse à ce genre de voyage en Suisse ou à l'étranger, c'est quand même des maladies très particulières. Il faut encore avoir cette... possibilité, voilà, et il faut en même temps être déjà assez malade pour que ça soit le protocole soit accepté par les médecins sur place. Donc c'est un créneau qui est quand même très particulier, on a l'impression, et on est parfois obligé de partir un peu trop vite pour rentrer dans le protocole suisse, donc c'est quand même très dur. Et oui, mais en fait, même si les enfants ne sont pas tous d'accord avec la décision de la mort, de la mère, etc., et de la mort, ils acceptent tous de l'accompagner. Donc c'est quand même, parce que disent-ils, on ne peut pas refuser à quelqu'un d'être libre. Donc c'est avant tout un livre aussi sur la liberté, même si on, pour soi, on ne sait pas ce qu'on fera et qu'on fera bien ce qu'on veut, ce qu'on peut. La liberté, la laisser aux autres, en tout cas, à ceux qui ont envie de partir.
Merci. Grégoire, je reviens rapidement sur cette question de la distance. Votre livre est très documenté. Vous faites parler votre mère, dans le sens où vous, parce qu'elle a écrit aussi, donc vous faites référence aussi à certains, soit à certains articles, soit à certains documents particuliers, ou certains livres, ou certaines personnalités aussi. On vous sent effacé, probablement par pudeur. Alors, il y a un seul chapitre où... peut-être on sent un peu plus le Grégoire Kaufmann de l'époque, enfin de l'époque en tout cas, qui se met un peu plus à nu. Si je trouve... Alors voilà, lorsque vous vous citez déjà, vous vous présentez comme un ado qui court les filles et voilà, qui presque n'est pas dans ce contexte d'enlèvement. Alors, mais vous faites dire à l'un de vos amis, je crois que nous avions en commun une immense colère en nous, due à l'injustice que nous avait imposé le monde des adultes. Nous étions compagnons de misère, et c'est pour cela aussi que nous, écorchés vifs, avons si bien compris et ressenti le marigot du pouvoir dans lequel naïvement nos parents nous avaient abandonnés. Une espèce de pudeur à parler de vous aussi, de ce que vous avez ressenti, vous, quand votre... Enfin, j'ai du mal même à imaginer ce qu'on doit ressentir quand notre père est enlevé à l'autre bout de la planète.
J'ai eu, en effet, empêché par une forme de retenue ou de pudeur, j'ai pas eu l'ambition de verser dans un récit où il y aurait du pathos ou destiné à susciter des sentiments comme la tristesse ou le chagrin. Or, c'est évident que pendant cette période de 3 ans, elle est associée à quelque chose de très douloureux. C'était évidemment... extrêmement violent, en fait, cette histoire où tout d'un coup on devient fils d'otage. La prise d'otage, c'est un chantage à la mort, en fait, qui est exercé tout le temps. Donc il y a aussi la mort qui rôde, et il faut vivre aussi avec ça. Il faut vivre aussi avec cette image étrange, un fils d'otage, c'est peu courant. Et donc j'ai aussi essayé d'explorer ce regard porté sur le fils d'otage. En même temps, oui, je pense qu'il y avait une forme de pudeur, donc j'ai préféré... avoir recours à une distanciation qui emprunte parfois d'ailleurs à l'humour, parce que c'est une forme de comédie humaine que toute cette activité autour des otages pendant... Il y a tellement d'enjeux politiques, diplomatiques, barbouzards, financiers qui sont présents et qui traversent toute cette histoire-là. Et c'est vrai que j'ai préféré donner la parole à mon camarade de collège, Erwan Séguillon, qui traduit assez bien ce que j'ai ressenti à cette époque. Mais j'ai aussi fait ce pari de la subjectivité, c'est-à-dire que j'ai croisé les sources, croisé les documents, essayé de d'émettre des hypothèses historiques sur cette histoire-là, mais je me mets également en scène avec ma subjectivité et avec mon point de vue d'adolescent. Et cet adolescent, c'est vrai que j'ai aussi essayé de le mettre à distance de moi-même. Il ne m'est pas très sympathique, en fait, cet adolescent que j'étais entre 11 et 14 ans. Donc je ne le ménage pas, et j'essaie de le donner à comprendre avec une forme de transparence aussi. Voilà.
Et donc, est-ce que c'est un récit pour comprendre ce qui s'est passé, pour témoigner de ce qui s'est passé, ou juste pour revenir sur une époque qui, vu l'actualité aujourd'hui, en dit aussi long sur le fait que les choses, malheureusement, continuent ?
Pour moi, c'était dès l'origine un prétexte, un formidable prétexte aussi pour faire revivre les années 80.
C'est ça, hein.
Cette décennie où tout bascule. C'est la fin du monde d'avant, et c'est le début du monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est la fin du long après-guerre, la fin des 30 glorieuses insouciantes. C'est le début de la psychose autour de l'islam qui s'invite dans le débat public, et l'affaire des otages, c'est ça aussi. C'est le début de la toute info, de le règne de l'immédiateté. Il se passe beaucoup de choses dans le champ des médias. Enfin, c'est le début de la montée du lepénisme. C'est l'époque où la gauche abandonne les classes populaires qui avaient voté pour elle en 1981. C'est le tournant de la rigueur où on passe de Marx à Bernard Tapie. Enfin bref, il y avait tous ces éléments-là qui faisaient de cette décennie quelque chose de très foisonnant. Et l'affaire des otages est comme un condensé qui permet aussi de faire revivre, en fait, ces années électriques. Et j'avais évidemment envie de faire pulser ces années-là à travers l'affaire des otages français au Liban par rapport à tous ces enjeux dans lesquels on baigne encore aujourd'hui, à commencer par la psychose des attentats, par exemple aussi, parce que ça commence aussi en 85-86, et c'est aussi lié à l'affaire des otages, parce que les poseurs de bombes à Tati ou sur les Champs-Élysées appartiennent à la même nébuleuse pro-iranienne terroriste qui sévit à Beyrouth et qui a commandité le rapt de mon père. Donc voilà, il y avait aussi cette volonté de mise en profondeur historique par rapport à des enjeux qui rappellent évidemment l'impitoyable aujourd'hui.
Alors, juste une petite question pour rester sur votre livre, et puis on rentrera dans le détail aussi pour Eric et Carole, si vous voulez bien. Vous dites, dès le début, votre père n'était pas censé partir au Liban. Et c'était même, vous le dites avec vos mots, c'était un pantouflard, il aimait bien la vie à Paris. Et puis, il y va, et quand il revient, vous dites, le Liban exerce une drogue. Surtout ceux qui partent, il veut y repartir et il sait qu'il y a un danger, et beaucoup de journalistes à ce moment-là partent couvrir les événements au Proche-Orient, c'était la guerre civile il me semble. Comment vous l'expliquez justement, cette drogue?
Parce qu'il y a une fascination révulsée par rapport à la violence de guerre libanaise à cette époque-là, et les journalistes, c'est vrai, y allaient, ils voulaient y retourner, dès qu'ils revenaient, ils n'avaient qu'une envie, c'était repartir. Parce que ça agissait comme un shoot, c'est monté d'adrénaline face à la violence de guerre. Les journalistes ont subi ce charme vénéneux, j'allais dire, et mon père a succombé lui aussi, mais ils étaient nombreux. Et c'est aussi ça que j'ai essayé de montrer, comment traiter la guerre d'un point de vue journalistique, et comment en effet un journaliste qui est plutôt habitué à faire des chroniques littéraires ou de couvrir un obscur fait divers au fin fond de la France se met à aller sur le terrain, à prendre en effet des risques. Et comment il avait sans cesse envie d'y retourner, de se mettre en effet en danger. Mais en même temps, c'est vrai qu'il n'y a pas eu, je pense, de ressentiment ni de ma part, ni de la part de mon frère ou de ma mère par rapport à cette mise en danger. Il faisait son travail, c'était aussi, on aurait pu lui en vouloir d'avoir risqué sa peau, mais en même temps, c'était aussi le devoir d'informer. C'était aussi une mission que celle des journalistes, que d'aller couvrir cette guerre civile abominable.
Bien sûr. Alors, vous avez tout en commun d'avoir des récits où les mères sont des personnages extraordinaires d'une force et d'une volonté incroyable, il faut le dire. Eric, votre mère à qui vous avez dédié tout un livre qui s'appelle 17 ans, parce que c'est l'âge où elle vous a eu une vie romanesque, douloureuse aussi, donc elle vous a eu, et ensuite elle a eu cette petite fille. Vous avez appris à quel âge, en fait, qu'elle existait, votre sœur ?
Oh, il y a très peu de temps, c'était en 2017.
D'accord.
Voilà, 2017.
D'accord.
Ma mère avait 75 ans et il y a eu ce que j'appelle un tremblement de mer, comme il y a un tremblement de terre, parce qu'elle est incapable de sortir ses mots sans trembler, le visage qui se défait. C'était terrible, cette douleur pour elle de dire ce qu'elle avait à nous dire, mes frères et moi. Et 2017, et j'allais publier en effet 17 ans. Et lorsqu'elle m'a dit cette chose, j'ai été tellement abasourdi que j'ai dû réécrire mon livre. Parce que, en fait, comme ce livre aurait pu s'appeler Le regard de ma mère, je me suis rendu compte que c'est comme un instrument de musique désaccordé. Tout d'un coup, ce que j'avais écrit ne sonnait plus juste parce qu'il y avait la découverte de ce fantôme. Donc, je me suis dit, mais il faut tout réviser, tout revisiter. Et donc, ça a été une grande épreuve pour moi, d'apprendre que ce séisme avait eu lieu il y a si longtemps que je ne pouvais pas y faire grand-chose, et on a toujours envie d'agir. Et la deuxième chose, c'est que ce texte que j'avais écrit, qui raconte en gros comment une mère n'est pas vraiment une mère, et donc un fils n'est pas vraiment un fils, et que je l'ai toujours prise justement pour une grande sœur, beaucoup plus que pour une mère. Et donc, il y avait toujours dans le regard de ma mère, c'est des choses à éclipse, où il y avait des choses quelquefois très légères, très presque enfantines, au point que c'était moi qui semblait être le plus vieux, et puis d'autres fois il y avait une sorte de gravité, de désespérance, et je ne savais pas. Et d'ailleurs, voyez, l'écriture d'une fiction vous révèle des choses, c'est que j'ai réalisé en écrivant Mon enfant, ma sœur, que ma mère, dans mon enfance, l'image que j'ai d'elle, c'est toujours en début d'année, je ne sais pas à quelle date exactement, mais je crois savoir à peu près, il y a toujours deux jours où elle n'arrive pas à se lever. Deux jours où elle est bloquée, les reins, une sciatique, je sais, elle n'y arrive pas. Et j'ai réalisé, maintenant, voilà, Carole qui a lu de près, que c'est les jours où finalement elle a mis au monde cette petite fille. Et donc c'est pour ça que je dis, chaque 10 janvier de la vie, elle te remet au monde. Et donc ça, pour moi, ça a été assez révélateur de me dire comment le corps à un moment donné, parle, comment le corps, il dit quelque chose qu'elle ne dit pas. Elle ne m'a pas dit « je suis bloqué parce que ». Non. Et donc, c'est seulement sur la vieillesse qu'elle va se délivrer d'une certaine manière de ce fardeau.
Alors, en fait, on lui prend son enfant. Elle ne voulait pas l'abandonner. C'est ce qu'on comprend.
Non,
en fait.
Elle est mineure. Elle a 20 ans. On est en 1963.
20 ans, elle est mineure.
On est à Bordeaux, dans un environnement comme dans toute la France, où la colonne, une des colonnes vertébrales françaises, il y a le Parti communiste d'un côté, il y a l'Église de l'autre. Et donc l'Église, elle corsette beaucoup les familles. Et ma grand-mère, qui est une femme seule avec ses enfants, le mari est parti, elle est sous l'emprise de ses soutanes, de ses curés, etc. Et donc, quand ma mère va pour la deuxième fois devenir une fille mère, il faut s'interroger pourquoi, d'un Marocain, moi je suis fils d'un juif marocain, cette petite fille c'est un arabe, donc ma grand-mère, peut-être peut-on la comprendre, ne supporte pas, mais ce qu'on peut ne pas comprendre, c'est qu'elle l'oblige à signer un papier d'abandon, et donc elle va attendre cet enfant, mais elle ne va pas l'attendre, puisque finalement elle sait que dès que... Et vous voyez, il y a une phrase, je crois qu'elle est d'Éluard, mais il faudrait vérifier les sources, qui dit quand on va au bal, il faut danser. Quand vous racontez une histoire comme ça, il faut vraiment la raconter. Quand Carole raconte cette histoire, elle vous passe pas. Moi, j'ai appréhendé de te lire parce que je me suis dit, c'est ça qui est formidable, c'est que il y a pas d'ellipse. On y est. Bon, et cette femme va mourir. La famille, elle est là. On est là-dedans. Dans cette histoire de mon enfant, ma sœur, je raconte, j'essaie d'imaginer pour le coup, comment ma mère, sortant à 20 ans, ce jour d'hiver de cette institution religieuse de Bordeaux où elle a mis au monde un enfant, j'imagine son corps, j'imagine son ventre, ses seins, et puis, mais il n'y a pas d'enfant. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et là, si vous voulez, c'est là où que vous pouvez mesurer de façon très concrète c'est quoi la cruauté ? Pour le bien, parce que l'Église c'est toujours pour le bien. Et donc pour le bien de qui finalement? De l'enfant qui est disparu, de cette fille mère qu'on va remettre dans le droit chemin, etc. Donc voilà, tout ça m'a interrogé et ça nous ramène à ce que vous me demandiez tout à l'heure. C'est vrai que la forme poétique pour moi, elle a été probablement une manière de mettre une forme de légèreté, de respiration dans quelque chose qui était ni léger ni respirable.
Alors, cette question peut sembler peut-être... vous avez dû vous la poser et vous me direz si vous voulez y répondre, mais est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi vous, elle vous a gardé et pas...
Ah oui, bien sûr, c'est pas le choix de Sophie.
Hein,
mais disons que je pense que... Enfin, la vraie histoire, je la raconte un peu dans 17 ans, c'est qu'il m'est arrivé la même chose. Simplement, ma mère m'a volé après. C'est-à-dire qu'elle est revenue un an après dans la banlieue de Bordeaux où elle savait que ma grand-mère m'avait laissé. Et elle m'a pris, elle avait son permis de conduire et elle avait appris la sténodactylo, donc elle était autonome. Donc elle est allée vraiment littéralement me voler. Elle m'a imposé à sa mère. Mais quand bis repetita, deux ans plus tard, évidemment, les choses se sont...
Il y avait moins de force, voilà. Peut-être. Merci, Eric. On va conclure avec vous, Carole, et parler un peu plus aussi de votre roman, donc Le jour et l'heure. Alors, effectivement, c'est dense émotionnellement. Donc, on sait, il n'y a pas de spoiler, on sait quelle est la fin. Et il y a la scène. Il y a la scène où, justement, elle est là avec ses enfants, et il y a un avant, il y a un après, et elle sait que tout le monde sait qu'elle va appuyer. Et puis, vous le décrivez dans le détail. Vous vous êtes imaginé cette scène en l'écrivant comme ça, là, avec toute l'émotion que ça peut prendre, surtout que vous dites juste avant, tant qu'elle était en vie, parce qu'elle posait des questions, elle disait moi je veux pour mes funérailles, je veux être incinérée, etc. Et les autres, ils ont dit l'après, on s'en charge. Tu as ton mot à dire jusqu'à ta mort. Je voulais questionner ça, justement.
Oui, parce que c'est aussi une mère, c'est aussi un livre sur la disparition de la mère, sur la mort de la mère. Et de la réaction très différente des trois sœurs et du frère en fonction de leur lien avec elle et de leur place dans la fratrie. Et ça aussi, c'est, voilà. Et c'est une mère qui est, selon le dire de tous ses enfants, très contrôlante. C'est une mère hyper organisée, qui va jusqu'à organiser sa propre mort et l'après de sa mort et les cendres, etc. Et à un moment donné, les enfants, certains en sont malades aussi de cette mère qui contrôle tout et disent « Non, mais là, stop, l'après, c'est pour nous, quoi. » Mais c'est vrai qu'ils réagissent tous différemment, parce qu'il y a une sœur qui dit à l'autre « Oui, mais t'as pas à dire ça à maman. Enfin voilà, donc c'est toujours c'est très très complexe. Mais oui.
Et l'après, parce que en fait, ils savent tous qu'il y aura des conséquences. Vous dites que l'une des sœurs doit aller en psychothérapie juste après. On imagine mal quand la mort est quelque chose qui jusqu'à présent on pensait ne pas pouvoir décider. On essaie forcément de se mettre à la place de cette femme qui sait que demain elle ne sera plus là, et ça doit être, moi en tant que lectrice en tout cas c'est comme ça que je le prends, et donc il y a un côté pas thriller, mais il y a un côté se met à sa place. Et donc je me demandais, du côté de l'écrivain, ça revient en même temps un peu à la question de la distance, mais quand vous écrivez cette scène où justement elle appuie, est-ce que vous mettez à la place
quelque part? C'est une façon d'apprivoiser aussi un peu les choses, de voir comment elle a réagi, comment elle a qu'une peur, c'est de rater le rendez-vous, elle a qu'une peur, c'est que la pompe ne marche pas, son dernier mot c'est putain ça marche pas.
Oui, c'est ça.
Donc quand on voit la détermination dans laquelle elle est, on se dit si à un moment donné je suis aussi déterminée qu'elle, ça ne pose aucun problème en fait. Toutes les questions qu'on se pose de l'extérieur, c'est affreux, c'est sa dernière balade, c'est sa dernière fois qu'elle voit le soleil. En fait pour elle ça n'a pas de sens, parce que quand on est dans un corps qui souffre et quand on a une sorte de dignité qu'on veut quand même à s'accrocher à une vie qui a un sens pour soi, on ne voit plus les choses du tout de la même façon. Donc ça m'a aidée. Moi je suis allée enquêter en Suisse, je suis allée dans cet endroit où ça se passe, j'ai vu ce que les gens dans cette petite maison de pavillon où on s'envoie comme ça un produit létal de façon par injection en fait. C'est le protocole de l'association que j'ai suivi, et c'est pas Exit, c'est une association plus petite, et j'ai vu la forêt, j'ai vu machin, puis je me suis dit c'est peut-être dans 20 ans c'est mon tour, ou dans 10 ans si j'ai moins de chance, ou dans 5 ans ou dans 30 ans, et so what, je rentre chez moi, qu'est-ce que je fais maintenant. Ça donne aussi cette lucidité, le fait de parler de la fin de vie, de parler de la mort, d'en parler avec ses proches. Moi ça m'a vraiment réancré paradoxalement dans la vie, quoi, parce que c'est aussi pourquoi évacuer cette finalité vers laquelle. Et je trouve que les. Oui, enfin, après, ça pose un problème par rapport aux médecins, qui sont vraiment encore aujourd'hui beaucoup dans le tabou, dans notre société aussi. On évacue beaucoup cette fin de vie où il y a un impensé quand même sur les derniers moments, etc. Et alors que. Pourquoi enfin, on irait tous beaucoup mieux, je pense, si à un moment donné, on en parle avec nos proches, on en parle. Enfin, si, c'est très dur, mais en même temps, à un moment donné, ça fait vraiment du bien et ça fait vraiment avancer les choses. Donc
vous dites un livre engagé, il a été lu par les proches de cette année.
Oui, non, mais bien sûr, j'ai eu beaucoup. J'ai commencé à écrire il y a 7 ans et j'ai eu beaucoup de mal à le faire publier parce qu'il n'est, comme pour Grégoire, il n'était pas forcément d'accord. Et donc, ça a été aussi. Là, c'est l'urgence de la convention citoyenne et tout. Genre, il dit non, mais là, ce que vous dites, c'est vraiment. Enfin, moi. Les gens, il faut qu'ils entendent vos voix, quoi. Je dois publier ce texte, absolument. Et je le retravaille et retravaille. Et à la fin, au bout de 7 ans, ils ont dit OK, mais ça a été très difficile. Mais... Ouais, voilà.
Grégoire, le retour de votre maman et de votre frère, ils l'ont lu, le livre ou...
Alors, au début, ils étaient très opposés au projet, puisque pour ma mère, c'était une histoire trop douloureuse. C'était une ancienne militante féministe qui connaissait la gîte-propre et qui avait déjà beaucoup milité dans les années 70. Et elle aurait pu tirer une forme de vanité, voire de fierté, d'avoir pendant 3 ans combattu pour la libération de son mari et d'avoir jamais failli et d'avoir eu ce comportement courageux et exemplaire, quoi. Et en fait, non, elle n'en tire aucune vanité. Pour elle, cette période est uniquement associée à un cauchemar, en fait. Ouais. Et elle a surtout le sentiment qu'elle a passé ces 3 ans à quémander, à toquer à toutes les portes, que c'était une enquiquineuse. Et c'est la posture, elle l'a vécue de manière assez humiliante, je crois. Donc elle n'avait pas du tout envie que j'exhume cette histoire-là. Mon frère aussi trouvait ça trop douloureux. Mais l'idée de me censurer leur a été tellement insupportable qu'ils ont fini par me laisser tranquille. J'ai pu m'ébattre en liberté dans les archives. Aujourd'hui, ma mère dit qu'elle aime bien le livre, mais qu'elle aurait préféré qu'il n'existe pas. Voilà.
C'est fou. Parce que nos années 80 ont été rythmées avec ces informations aux infos tous les soirs, de voir 350e jour de Jean-Paul Kaufmann, et on en était, enfin moi en tant qu'enfant je voyais ça à la télé et je pensais aux enfants, je me disais mais c'est quoi son père comme ça, donc on était dans, en fait à l'époque, je sais pas, moi j'ai vécu comme ça en tout cas étant enfant, derrière la télé à voir ces jours qui défilaient tout le temps, et c'est drôle d'avoir le livre aujourd'hui, je trouve ça génial.
Ouais, non, moi je suis très ému d'entendre Grégoire, parce que moi j'étais un tout jeune journaliste à l'événement du jeudi, Et un jour, Jean-Paul est venu vers moi parce qu'on parlait de la Nouvelle-Calédonie, c'est assis à côté de moi. Et il m'a montré une carte de la Nouvelle-Calédonie. Il me dit, tu vois, là, il y a le nickel, il y a ça, les Kanaks, les Kalos. Il m'a fait un cours. Et c'est la première fois que je voyais un journaliste chevronné comme ça qui s'intéressait à moi et qui me donnait, voilà. Et puis, on avait un patron qui était Jean-François Kahn et qui envoyait souvent les journalistes à contre-emploi. Et donc, je ne savais pas ce que tu as dit, qu'il était plutôt pantouflard. Moi, je le voyais au contraire comme un baroudeur. Je ne sais pas comment ça s'est noué, cette histoire de Liban, mais on était dans un journal aussi où il fallait aller voir. Et ça, et moi, j'ai hâte de lire. Je n'ai pas pu lire encore l'enlèvement, mais j'ai hâte de le lire parce que je sais que je vais retrouver à la fois cette époque des années 80 où la gauche n'est plus la gauche, où elle commence à trahir un peu ses engagements. Et puis, il y a une histoire personnelle qui, comme dit Carole, a été la nôtre aussi parce qu'on était. On espérait qu'il allait s'en sortir, on voyait bien que c'était très difficile. Et quand j'ai eu la chance de publier Jean-Paul dans ma revue Zadig, on en parlait hier avec Grégoire sur la boulangerie-pâtisserie de ses grands-parents, de ses parents, donc tes grands-parents, j'ai vu là qu'il avait aussi échappé à un destin incroyable parce qu'en gros, ses parents, un week-end, sont allés voir un match de foot alors qu'ils allaient. Sont allés voir une opérette. Parce qu'ils allaient jusque-là toujours au foot, le père, mais la mère qui faisait des gâteaux, qui marchait bien à la boulangerie, ils ne pouvaient rien lui refuser, donc ils sont allés voir une opérette, et l'équipe de foot, ils ne l'ont pas suivi. Et quand ils sont rentrés dans le village, en Bretagne, il y avait une drôle d'ambiance, et en fait, ils s'étaient tous tués en bus.
Il y a eu un accident toute la jeunesse du village a été fauchée, parce qu'ils étaient... Ils étaient allés disputer un match dans un village pas loin, et ils avaient perdu d'ailleurs, mais ils avaient quand même beaucoup bu. Et le conducteur a loupé un virage et toute la jeunesse de Cornus, cette localité d'Ille-et-Vilaine, a été fauchée. Ce qui est amusant, en fait, c'est que mon père, aujourd'hui, travaille lui-même sur l'histoire de ses parents. Donc, il s'est allé dans le registre de l'histoire familiale. Et ça commence grâce à cet article qu'il a publié par Eric dans Zadig. Donc, ça, voilà, le début de cette histoire-là, elle est là, quoi.
La boucle est bouclée. Écoutez, on pourrait en parler pendant 3 heures, sans un moment, on est juste un peu coincé par le temps, mais je vous invite à continuer les discussions avec vos lecteurs. Et messieurs, dames, je vous invite vraiment à lire ces 3 romans qui sont d'une émotion incroyable, à discuter avec leurs auteurs et puis à vous faire dédicacer ces livres. Merci à vous trois, merci à tout le monde et bonne fin de Fort Lieu.